de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina, qui est organiste. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Nous allons partir à la découverte du fonctionnement de l'orgue et tout d'abord sa structure. Il est composé de claviers et de pédaliers, ainsi de soufflets qui alimentent les tuyaux. Comment gérez-vous cette machine, cette console ?
Alors si vous voulez, je peux vous parler peu de l'architecture des claviers, de l'ordonnancement des jeux et de tout ce qui concerne le pilotage de cet instrument. Alors, ce qu'il faut d'abord dire sur l'instrument, ça fonctionne comme des générations. C'est-à-dire que le père, le fondement, le soubassement de tout, c'est le pédalier. Bach, d'ailleurs, il lui arrivait de ne jouer qu'avec le pédalier. Et puis ensuite, vous avez le grand orgue. Alors, le grand orgue, c'est le clavier du grand cœur. La foule qui chante. Les parents. Il y a le Père éternel, c'est le pédalier. D'ailleurs, Bach confiait effectivement la voix du Christ à la basse. Et donc, ensuite, vous avez le grand orgue, le clavier principal, manuel, qui est le grand cœur, les parents. Ensuite, vous avez le positif, qui sont les enfants. Et si j'osais, je dirais que dans l'orgue classique, le récit, c'est les petits-enfants. Alors, il y a une hiérarchie. Tout le monde obéit au Père éternel. Et puis ensuite, les enfants obéissent aux parents, les petits-enfants obéissent... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est la raison pour laquelle, mécaniquement, on va entraîner les claviers les uns par les autres. C'est-à-dire que le pédalier, lui, est capable de tirer tout l'orgue. Ensuite, le positif et le récit peuvent également être accouplés sur le grand orgue, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a cette notion de génération qui s'entend acoustiquement également.
Donc, l'organiste demande au facteur d'orgue de fabriquer un orgue pour pouvoir composer.
Alors,
finalement ?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai qu'il a des desiderata, il a des besoins, etc. Et après, il y a un principe de réalité. Le facteur doit s'arranger avec sa culture à lui, parce que c'est un métier, facteur d'orgue, qui est compliqué. Il doit s'arranger avec les moyens matériels qui lui sont donnés, parce qu'on n'a pas non plus toujours un devis infini en budget. Et puis aussi, avec l'esthétique du bâtiment. On ne construit pas, par exemple, dans une abbaye cistercienne, un grand orgue de concert. Il y a tout un compromis à trouver entre le bâtiment, le facteur d'orgue, l'organiste, et si j'osais, je dirais aussi l'assemblée qui va utiliser cet instrument, écouter cet instrument.
La machine de l'orgue, la console, est-elle soumise finalement à l'édifice ?
Oui.
Et comment,
du coup ? Il y a la taille de l'instrument. On ne va pas mettre 150 jeux dans une chapelle. Ça, c'est absolument évident. Dans l'autre sens, ça marche beaucoup mieux. On peut imaginer d'avoir un positif de 3 jeux dans une cathédrale, si par ailleurs il y a un grand instrument. Un tout petit instrument peut sonner dans une grande acoustique. Donc il y a effectivement la taille de l'instrument. Il y a aussi la mission qui lui est attribuée. Il y a des orgues de concert pour lesquels effectivement on va avoir, on va dire une mission symphonique, une mission orchestrale. Voilà, on va dire ça comme ça. Michel, on va jouer les préludes de Liszt là-dessus, voyez. Donc ça, ce sont les grands instruments orchestraux. Et puis il y a des instruments comme des orgues de chœur qui sont là pour accompagner la chorale, pour accompagner la maîtrise, qui sont des instruments avec le côté accompagnant et je qualifierais même de pédagogique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'accompagnement liturgique du chant. Les deux ne sont pas contradictoires. Et c'est l'intérêt d'avoir un instrument à plusieurs claviers, justement. Si je prends le grand orgue de Notre-Dame de Paris, il est complètement universel, parce qu'il ne vous échappera pas qu'il remplit la nef quand il joue son rôle d'orgue de concert, mais il peut aussi, sur les tout petits jeux, il y a 5 claviers quand même, sur les tout petits jeux, il est capable aussi de faire les pianissimo les plus doux, et donc c'est un instrument véritablement polymorphe.
Il y a parfois deux orgues dans une église, notamment l'orgue de tribune et l'orgue de chœur, donc cela peut répondre à la situation.
Absolument, et c'est tellement vrai ce que vous dites. Alors ça répond à la situation du point de vue liturgique et même du point de vue du concert. Par exemple, Vierne a écrit des œuvres pour deux orgues.
Vous voulez nous faire écouter le jeu de pédale BWV 598 de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Pourquoi ?
Pour deux raisons. D'abord parce que c'est vrai que du point de vue de la technique, c'est très très intéressant en sol mineur de voir ce qu'on arrive à faire avec deux pieds. On a l'impression de deux mains qui jouent sur un clavier. En réalité, c'est deux pieds qui jouent sur un pédalier. Puis deuxièmement, je trouve que c'est très intéressant parce que les musicologues ne sont pas tout à fait d'accord. La plupart pensent que cette œuvre est de Carl-Philippe Emmanuel Bach. D'autres pensent qu'elle est de Johann Sebastian Bach. Ce qui montre bien que quand l'élève et le maître sont en plein accord, si j'ose dire, eh bien, on arrive à un point où on ne peut même plus distinguer les compositions. Donc c'est une œuvre didactique, comme les sonates en trio. Alors il y a peut-être l'hypothèse que c'était le solo initial d'une toccata qui a disparu, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, c'est quelque chose d'extrêmement pédagogique et d'intéressant pour voir ce qu'à l'époque du Bach, on pouvait déjà tirer d'un pédalier.
Il y a aussi des tirasses et des accouplements. Oui. Elles jouent essentiellement un rôle d'amplification pour mettre l'orgue en puissance ou une présence plus importante. Comment cela fonctionne-t-il ?
Alors, ce n'est pas seulement de l'amplification, ce n'est pas seulement de l'empilement, c'est le fait de travailler ensemble. Et le fait de travailler ensemble, excusez-moi, mais le tout est plus que la somme des parties. Vous savez, on avait un Nobel de littérature en France qui s'appelait Henri Bergson, un grand philosophe. Quand les journalistes lui ont demandé « Est-ce que vous pouvez résumer votre pensée en une phrase ?» Il a répondu « Le tout est plus que la somme des parties ». Eh bien, quand on accouple les claviers, c'est plus que de les jouer séparément. C'est le plus joli mot de la langue française qui s'appelle « ensemble ».
Vous souhaitez nous faire écouter les pleins jeux de Louis Marchand ?
Oui. Alors, Marchand était un très grand musicien que Bach admirait beaucoup et qui admirait beaucoup Bach. Je pense même qu'il craignait un petit peu Bach. Et donc, c'était un organiste assez fantasque. Hein. Il a eu des problèmes avec le roi. Enfin bon, ça a été assez compliqué, sa vie. Mais c'était un immense artiste. Souvent, les artistes sont des personnalités assez fortes. Hein. Vous l'avez remarqué. Il avait, dans ses pleins jeux, plusieurs choses. D'abord, l'équilibre à la française, d'un plein jeu très équilibré, où les fonds et les mixtures se mélangent à un point qu'on n'arrive plus vraiment à les distinguer. Les mixtures éclaircissant les fonds solidifiant les mixtures. Et puis, il avait aussi plusieurs signatures à lui, un certain nombre de dissonances qui apparaissent à certains endroits. C'est très curieux. Il y a des demi-tons qui se superposent dans le même accord. Et donc, il y a des dissonances qui sont incluses dans le grand plein jeu à la française. Et ça, c'est typique de Marchand. Il a une autre signature qui est certaines cadences, justement à la basse, où on entend une descente chromatique.
Justement, est une machinerie, donc pas que, effectivement, il y a aussi du bruit. Oui. Comment peut-on jouer avec des bruits de pédales, des bruits de clavier ?
Alors, c'est un bruit relativement naturel. C'est un petit peu comme la respiration de l'instrument. Vous savez, quand on entend les enregistrements de Glenn Gould, on l'entend parfois qui chantonne en même temps. Eh bien, le bruit de l'instrument, c'est le prix de l'authenticité. L'instrument est vivant, il n'est pas pur esprit, il est aussi mécanique, chair, et quelque part, il respire mécaniquement. Donc oui, alors pour l'instrumentiste, des fois, c'est un peu troublant, parce que quand on joue surtout sur des pianissimos, on entend beaucoup la mécanique. Je pense qu'en bas, dans la nef, on l'entend beaucoup moins, mais enfin, on l'entend un petit peu. À la limite, on pourrait presque le retourner à notre avantage. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le trait qui souligne la ligne mélodique et qui ajoute ce qui manque peut-être à l'orgue, qui sont les percussions. L'orgue est un instrument avant. Alors, il y a quelque chose de commun avec les cordes, en ce sens qu'il tient la durée et que certains jeux imitent très bien les cordes. Les gambes, par exemple, imitent très bien la viole de gambe, comme son nom l'indique. Il y a même certains organistes qui jouent là-dessus. Jouer le boléro de Ravel, qui commence très très doucement avec les percussions, sans tirer aucun jeu de l'orgue, alors il faut un orgue mécanique pour ça, et on tape sur les touches, éventuellement avec des clusters, puisqu'on n'a pas besoin de... On n'entend pas les notes, hein, mais on entend la mécanique, donc on a beaucoup de touches qui s'appuient en même temps, on entend pam, 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 et on entend ça dans la mécanique de l'orgue, il y a des organistes qui font ça. Donc on peut retourner le bruit à notre avantage. Les guitaristes font ça aussi quand ils tapent sur la caisse. Et même les violonistes, ils le font de temps en temps.
Il y a sur des orgues aussi des jeux qui relatent de bruit, notamment l'imitation du rossignol,
oui,
ou de la pédale d'orage.
Oui, et même les Espagnols avaient des jeux assez amusants qui s'appellent voix de vieux, voix de vieille, qui sont tout simplement des jeux désaccordés. Alors c'est très amusant. Vous avez en Pologne un instrument, vous avez des oiseaux sur la façade qui battent des ailes. Quand on tire un jeu, vous avez les ailes des oiseaux ou les ailes des anges qui bouge, voyez. Vous avez à Ochsenhausen en Allemagne, sur le positif de la centrale, là, vous avez une étable avec un bœuf. Il y a un jeu, quand on tire le jeu, il y a le bœuf qui sort la tête de l'étable. Alors le rossignol est tout à fait charmant, parce que dans la musique pastorale, si vous voulez, à l'époque de Noël par exemple, pour évoquer les bergers, c'est très joli d'avoir les petits oiseaux. Alors c'est un accessoire assez amusant qui revient un petit peu aux origines de l'orgue d'ailleurs, puisque ce sont des tuyaux qui trempent, alors dont l'alimentation trempe dans l'eau, et en passant à travers l'eau, le tuyau est alimenté de manière discontinue, qui imite le gazouillement, le gazouillis des oiseaux. Vous avez le Zimbelstern aussi en Allemagne, qui est une étoile avec des cloches qui tournent. Donc vous avez une petite étoile qui est émue par l'air de l'orgue, hein, et vous avez des cloches accrochées dessus qui teintent au fur et à mesure, un petit peu comme les carillons qu'on a avec les bougies, vous savez, et qui tournent. C'est-à-dire que le facteur d'orgue va créer un univers autour de l'instrument, et que l'instrument va être pas seulement un instrument de musique, mais une matière de rêve et une matière de création.
Mais oui, ces facteurs d'orgue sont remplis d'inventions, et notamment une invention importante qui est la machine Barker. Comment l'utilise-t-on et quels sont ses procédés pour jouer un rôle dans l'instrument ?
Effectivement, l'orgue, il ne vous a pas échappé dans l'Antiquité, a été inventé par un disciple d'Archimède. Et Archimède est l'inventeur des leviers. Et effectivement, dans l'orgue, il y a l'orgue mécanique, il y a des leviers absolument partout pour transmettre. Le problème du levier, c'est qu'il n'ajoute pas d'énergie, c'est-à-dire que c'est toujours le doigt ou le pied de l'organiste qui fournit l'énergie. Cavaillé-Coll, quand il a voulu agrandir l'instrument, il a rencontré un ingénieur anglais qui s'appelait Charles Barker, qui effectivement a inventé le levier, non pas le levier passif, mais le levier actif, c'est-à-dire un levier pneumatique. Il y a un petit soufflet dans ce levier. Quand on lui tire dessus, ben le soufflet va donner plus d'énergie que ce que vous avez mis au départ. C'est-à-dire, c'est littéralement la direction assistée sur votre voiture. On va mettre une assistance énergétique à l'intérieur de la transmission. Alors, les premières machines Barker, d'ailleurs, ça ne s'appelait pas machine au départ, ça s'appelait levier Barker, c'était effectivement, à la place du levier, on avait un petit soufflet qui tirait, qui augmentait la poussée ou la traction de la touche. Et puis, avec le temps, on les a rassemblés dans ce qu'on appelle une véritable machine, qui pour le coup devient véritablement une usine à gaz, qu'on appelle la machine Barker, et qui en particulier est utilisée quand les claviers sont accouplés. Parce que quand on a un instrument, ben, comme à Notre-Dame de Paris, où vous avez 5 claviers accouplés, effectivement, c'est compliqué. On va être obligé de tirer plusieurs milliers de tuyaux avec les mains. La force physique des doigts, aussi costaud soit-on, n'en suffit pas. Et donc, la machine Barker va être l'amplificateur. Alors après, ça a pris des proportions absolument gigantesques. Déjà, à Saint-Sulpice, c'est énorme. Un des records en la matière, c'est à Saint-Michel de Hambourg, qui est un instrument absolument tellement gigantesque qu'il y a des tuyaux dans le toit du bâtiment. Et là, s'il n'y avait pas la machine Barker et plus tard l'électricité, ce serait impossible.
Merci Yves pour cette émission sur la mécanique de l'orgue. Vous avez donné une part de rêve sur cet instrument. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, alors l'orgue, c'est du rêve, effectivement, mais c'est aussi de la réalité, parce que vous savez, il faut vivre ses rêves pour éviter de rêver sa vie.
Merci Yves, à bientôt.
Je vous remercie Blandine, à bientôt.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.